Chapitre 19.
La grotte des premiers Français. 21h26.
La vieille Renault 5 de Christos roule lentement dans les hauts de Saint-Louis. Il ralentit encore dans le virage serré de la rue des Combavas. Empiétant sur la moitié de la route, une dizaine de cafres, bière à la main, attendent devant un camion-bar qu'une table en plastique blanc se libère sous la toile de tente arc-en-ciel tendue entre deux palmiers. Rainbow Nation. Mon cul, philosophe Christos. Trois lacets encore. Aux quelques constructions en hauteur succèdent les cases, de minuscules carrés de tôle cernés de jardins dépotoirs. Vélos rouillés, fleurs dépotées, gravats et ferrailles. Bidons, villages, et encore, les fils à eau masquent le pire. Christos coupe au plus court le virage suivant. Il n'a vraiment compris la réunion que le jour où il l'a vue du ciel. Pas d'un hélico, pas besoin, juste à partir d'une connexion Internet sur Google Maps. Il a découvert l'île aplatie par la vue satellite, couverte de milliers de petits carrés blancs, des cases, toutes pareilles, entourées de la même nature tropicale, dorées du même soleil, différenciables par un seul détail. Parfois, un petit ovale bleu touche les carrés blancs. Parfois, non. Vu du ciel, l'équation est simple. Plus on se rapproche de la plage, plus on est près du lagon, celui où on peut se baigner sans rochers, sans requins, sans courant, et plus les cases jouxtent un rond bleu. Le déterminisme ne souffre d'aucune exception. La densité de piscines sur l'île est strictement inverse aux besoins théoriques. À la BTA, Christos avait montré la carte à Aja, qui avait haussé les épaules. Lui avait trouvé la métaphore incroyablement signifiante. « Une île, un monde », proclame le slogan touristique de la Réunion. Pas faux au fond. Sur 40 km², rassemblait un échantillon représentatif des inégalités entre les peuples des 5 continents. Un laboratoire de l'humanité. Cette île est une terrasse posée sur le rebord du monde pour observer l'avenir du genre humain. À l'ombre, en tongs, un verre de punch à la main. Christos se gare rue Michoufontaine, une ruelle en pente douce bordée de voitures rouillées. On dirait une casse, c'est juste un parking. La case d'Imelda est la quatrième du quartier. Trois jeunes fument devant, assis sur les trois planches vermoulues qui servent de marche. Nazir est le plus âgé des fils d'Imelda, 15 ans. De longues jambes des châssiers qui auraient enfilé un short. Il crache sa fumée et lève les yeux vers Christos.
Oh, « Ah tiens, t'es là, Derrick? T'es pas en train d'arrêter l'ennemi public numéro 1 ?»
Une radio posée sur un bidon de plastique braille 5 mètres plus loin. La traque de Martial Bélion, c'est le feuilleton du soir. Nazir tire sur son mégot et insiste.
« Moi qui te prenais pour James Bond ?»
Christos pose le pied sur une marche. « Je me repose, gamin. Tu vois, Derrick aussi, il dort. Il bouffe, il chie. James Bond, pareil. » Les deux copains de Nazir se marrent. Pas Nazir, il joue déjà les blasés.
Je sais pas ce qu'elle te trouve, ma mère. L'oreille, flic et con.
Christos monte deux marches, baisse les yeux vers l'adolescent. Mais romantique. Retiens la leçon, gamin. Dormir, bouffer, chier. Mais avec romantisme. C'est le secret. Tiens, allez, file-moi une taffe. Nazir attrape le mégot entre ses deux doigts et le dissimule derrière son dos.
Hey, pas touche, mec, hein. Substance interdite.
Raison de plus. Oublie pas que tu parles à un fonctionnaire assermenté. Les yeux de l'adolescent pétillent de défi.
Ah ouais?
Ouais. Pour la peine, oublie la tige et file le sachet de Zamal planqué dans ta poche. Confisqué. Sans se démonter, Nazir extirpe de son short une boule de feuilles empaquetées. Il l'agite devant le gendarme.
Tu parles de ça, mec? Je te le laisse pour 150 €. Ça en vaut le double. Mais t'es presque de la famille, non?
Christos tend la main. Vendu. Je laisserai le fric à ta mère.
Ah ouais, mon cul.
Le sachet de plastique retourne au fond de la poche. Nazir a juste coincé une feuille entre son pouce et son index.
Allez, tiens, Derrick. Cadeau de la maison. Zamal du potager cueilli de ce matin.
Lorsque Christos entre dans la case, cigarette à la main, Imelda lui tourne le dos, penchée sur l'évier. Les trois gosses, Dorian, Jolie et Amic, sont assis au bord de la table.
« Christos, bordel !»
crie Imelda sans même se retourner.
« Ta cigarette !»
Le flic soupire.
« Pas devant les enfants. Pareil pour Nazir, j'ai tout entendu. Tu devrais pas l'encourager, il a 15 ans. T'es un modèle pour lui.
»« Un modèle ? Rien que ça. Son père adoptif pendant que tu y es.
Pas de chantage psychologique à deux balles avec moi, Imelda. » La vaisselle cogne sur la faïence ébréchée. Les couverts tombent dans le bac en une cascade de fer.
« En attendant, éteins ta clope. Et demain, tu lui confisques son paquet de Zamal. Puis t'arraches les plants dans le jardin. Si tu veux pas jouer au père, joue au moins au flic. »
Christos écrase son mégot par terre. Il a juste le temps d'attraper la bouteille de rhum charrette avant de s'effondrer sur le tabouret de bois.
« Putain, c'est ma soirée !»
Imelda se retourne et ramasse d'un mouvement précis les verres et les assiettes devant les trois enfants.
« J'écoutais les infos. Ça chauffe à Saint-Gilles. Je t'attendais pas si tôt. »
Le rhum blanc brûle le palais du sous-lieutenant.
« Un con de plus ou de moins pour jouer à cache-cache. Ça change pas grand-chose. »
Imelda hausse les épaules. Elle gratte une allumette et allume le gaz sous le faitout d'aluminium.
« T'as pas mangé, je parie. »
Christos se contente de secouer la tête. Il adore cette déesse cafre. Il adore son carry. Il adore venir poser son cul dans cette case pourrie. Il a à peine vidé son verre que la petite Jolie saute sur ses genoux. Ses longs cheveux crépus sentent le shampoing au lait de coco.
« Tu me racontes une histoire de méchant ?»
Christos pousse la bouteille hors de portée de la petite.
« Un vrai méchant ?»«
Ouais !»«
Une histoire de méchant qui tue les créoles avec un grand couteau, qui tue sa femme pour avoir sa petite fille pour lui tout seul ?»
Jolie éclate de rire.
« Oui !»
Imelda range la vaisselle dans un buffet de formica. À travers le verre déformant de la bouteille de rhum, Christos ne voit plus rien d'autre que son cul de reine. Il a une folle envie d'elle, là, maintenant. Imelda possède un corps dessiné pour la levrette. Jolie le tire par la manche.
« Tu regardes les fesses de maman ou tu me racontes mon histoire ?»
Chippie. Christos s'amuse à faire basculer la fillette. Elle se tord de rire. Dorian et Amic en profitent pour rappliquer sur le ring et avoir leur quota de catch.
« Attention, c'est chaud !»
prévient Imelda en posant l'assiette de curry devant Christos.
« Allez, oust ! Au lit, la marmaille !»
La Caffrine fait taire les protestations d'un geste de torchon menaçant. Elle se tourne à nouveau vers Christos.
« Tout à l'heure, quand on sera tous les deux, il faudra que je te parle, sérieusement.
»« Laisse tomber, alors !»
Imelda continue sur le même ton, peut-être avec une pointe d'excitation supplémentaire.
« Te parler de ton affaire de tueur en cavale, idiot !» Il y a quelque chose qui me tracasse dans cette histoire qu'ils nous racontent en boucle à la télé. Quelque chose d'étrange auquel, bizarrement, absolument personne ne semble avoir pensé.
»21h53.
20 minutes de pause. C'est le répit qu'Aja s'est autorisé, montre en main. Elle a préféré quitter Saint-Gilles. Comme souvent lorsqu'elle a besoin de faire le point, elle a poussé sa 206 jusqu'à Saint-Paul, pour y marcher, à la nuit tombante, au bord du cimetière marin désert, de la place vide du marché, de la grotte des premiers Français enfouis sous les files à eau. Aja vient d'appeler chez elle, tout va bien. Tom s'occupe de Jade et de Lola. Aja déteste téléphoner ainsi, résumer une journée en trois phrases, raccrocher presque aussitôt pour ne pas occuper la ligne. Remettre ensuite dans l'ordre les mots jetés dans le combiné par un mari compatissant et deux fillettes excitées. « Prends soin de toi, ma chérie. On t'a vu à la télé, maman. Ne t'en fais pas, ma chérie, je gère. Tu rentres quand, maman ? Les filles attendaient ton coup de fil pour éteindre. Papa nous a lu Tigeant, maman. Et puis, il a retrouvé l'endormi. Il était caché sous les pierres derrière la maison. Embrassez votre maman, les filles. Elle est pressée. Tom est parfait. Tom est prof des écoles depuis 6 ans dans les Hauts de Saint-Gilles. Il s'occupe des grands en maternelle. Calme, raisonnable, mignon. Souvent, elle lui demande pourquoi un type aussi parfait supporte une fille aussi chiante qu'elle. « Pas chiante », lui répond-il immanquablement. « Entière. Entière. » Aja a parfois l'impression d'être en couple avec un punching ball, bien stable sur son socle. Plus elle cogne, plus il revient à sa place. Intact. Un joli punching ball, en velours noir. Un papa génial. Un amant tendre. Aja n'aime pas dormir sans Tom. sauf lorsqu'un tueur se promène dans l'île avec une fille de l'âge de Lola. Elle consulte l'horloge de son téléphone portable. Il lui reste 7 minutes. Elle n'a aucune raison de stresser. Morez a pour ordre express de l'appeler en urgence s'il y a le moindre élément nouveau. Pour l'instant, silence radio. Aja avance en direction de la grotte des premiers Français. Au loin, on aperçoit le port de la Pointe des Galets. C'est ici, selon la légende, qu'accostèrent les premiers habitants de l'île. L'île Bourbon, comme on l'appelait à l'époque, était inhabitée. Pas d'indigènes à massacrer pour les colons. L'île était juste un caillou trouvé au milieu de l'océan, n'appartenant à personne ou à tous. Aja longe le cimetière marin, sa voiture est garée au bout. Elle a appris il y a peu de temps que son arrière-grand-père était enterré là, dans une petite tombe au milieu de celle des pirates. Abi Purvi, son aïeul, arriva sur l'île en 1861, pendant l'engagisme, le terme local politiquement correct, pour désigner l'esclavage à la suite de son interdiction par la République française. Après les Africains et les Tamouls, on fit venir des milliers de Arabes pour travailler dans les champs de canne. Juste avant que soit inventé en métropole le sucre de betterave et que la ruine soit presque immédiate pour toute l'économie de l'île. Ironie de la mondialisation économique naissante, des milliers d'esclaves se retrouvèrent au chômage. L'arrière-arrière-grand-père d'Aja tenta, comme d'autres Arabes, de faire fortune dans le commerce de tissus. Solidarité ethnique. Lui s'engouffra dans le créneau de la paille de chouchou tressée pour faire des chapeaux. Cela lui permit de survivre, mieux au moins que la plupart des créoles qui crevaient de faim. Jalad, le fils d'Abi Purvi, reprit le flambeau paternel. Chouchou, paille, chapeau, on en vendrait tant que le soleil des tropiques taperait sur les crânes. Il se maria en 1906 à la mosquée Nour al-Islam de Saint-Denis, la plus vieille mosquée de France. Il acheta un lopin de terre à Saint-Gilles, sans prévoir que juste en face de ce terrain à cailloux, longeant une ravine crasseuse, les oreilles allaient construire la gare de Saint-Denis. Sa première idée fut de déménager à cause du bruit, du monde et de la fumée. Puis il s'habitua. Pour finir, il loua sa case aux habitants de Saint-Denis qui passaient le week-end en villégiature au lagon. 5 ans plus tard, en 1912, il abandonnait le tissage de chouchou et construisait une pension de 7 chambres. Faris, le grand-père d'Aja, naquit en 1915 dans une grande maison de style colonial dans les Hauts de Saint-Gilles. Les affaires des Purvi brillaient au zénith. Le chemin de fer, mais aussi désormais les paquebots accostés au port de la Pointe des Galets, continuaient d'amener des flux de touristes, de chefs d'entreprise, de familles bourgeoises en mal d'exotisme. En 1937, Faris posa la première pierre d'un hôtel réunionnais digne de ce nom, qui ouvrit 2 ans plus tard. Ses premiers clients restèrent plus longtemps que prévu. Il s'agissait de riches Européens, fuyant le nazisme, juifs pour la plupart. La seule religion qui manquait sur l'île. Le père d'Aja Rahim vit le jour en même temps que l'hôtel du Lagon, en 1939. Fils unique, il se trouva une sœur de son âge, Sarah Abramoff, la fille d'un entrepreneur juif réfugié dans l'hôtel pendant la guerre, qui renonça après 1945 à quitter les tropiques pour rejoindre le jeune État d'Israël. Entre les couloirs du palace et le Lagon, ils grandirent ensemble, inséparables. Pour Faris, le grand-père d'Aja, leur mariage était déjà arrangé. Son sens des affaires associé au compte en banque de son beau-père permettait d'écrire une success story entre juifs et musulmans comme seule l'île de la Réunion peut en produire. Une promesse d'empire touristique régnant sur les Mascareignes. À leur majorité, ils envoyèrent de concert Rahim et Sarah aux États-Unis suivre des études de commerce international. Même école, même promotion. Rahim était timide et obéissant, mais moins passionné par l'entreprise familiale que par ses supposés dons artistiques qui s'exprimaient dans l'art du collage de faïence colorée. Sarah, de son côté, abandonna rapidement le zouk de son enfance pour le rock des Beach Boys. Elle ne revint jamais. Elle mit le grappin sur un Californien blond et s'installa à San Diego. Envolée, le rêve de complexe hôtelier dans l'océan Indien. Son père, Nathan Abramoff, quitta la Réunion en 1967 et partit vivre à Tel Aviv. Rahim revint seul des États-Unis, sans un dollar et pas même diplômé. Comble de tout, le fils indigne, sitôt rentré, se consola de ses échecs en tombant amoureux de la plus belle fille de l'hôtel, Laila, une créole illettrée à peine majeure qui nettoyait les toilettes. Des illusions paternelles, colère, menaces, rien n'y fit. Rahim, qui n'avait jamais espéré qu'une fille aussi belle lève les yeux sur lui, tint pour la première fois tête à son père. Afin de fuir les foudres familiales et les sarcasmes de la caste arabe, il s'embarqua avec Laila pour Madagascar. Pour faire fortune dans l'art de la céramique, espérait-il. Une fois de plus, il échoua. Il survécut en charriant des pierres pour construire le barrage du lac à la Otra. Il ne revint à la Réunion que 6 ans plus tard, à la mort de son père. Laila était alors enceinte d'Aja, sans argent, sans travail. Rahim fut accueilli comme un lépreux. Depuis son départ, l'hôtel du Lagon, au bord de la faillite, avait été racheté par un groupe international, Marriott Corporation, dont, ironie du sort, Nathan Abramoff était l'un des actionnaires. Le gérant de l'hôtel du Lagon, rebaptisé Alamanda, un Belge bardé de diplômes, se fichait de l'héritage familial. Il embaucha la mère d'Aja parce qu'elle était jolie et, accessoirement, parce qu'elle connaissait le métier et les lieux. Au coup par coup, lorsque Laila le suppliait, il fit aussi travailler Rahim dans sa spécialité, la faïence. Salle de bain, piscine, toilette. Aja s'en souvenait lorsqu'elle attendait ses parents, bien sages, dans le couloir de l'hôtel. Les autres employés ne se gênaient pas pour humilier devant elle le fils de leur ancien patron. De bonne guerre. Faris Purvi n'était pas du genre à faire du sentiment avec le petit personnel, et rares sont les Arabes qui échouent dans les affaires. Elle l'avait compris bien plus tard. Tous considéraient Rahim comme une fin de race débile, accouplée à la plus belle fille de l'île pour tenter de régénérer la dynastie. Ses parents habitèrent jusqu'à 10 ans à Plateau Caillou, une zone de quelques immeubles ratatinés, isolée de Saint-Paul et de Saint-Gilles, par une falaise de 80 mètres. Puis ils déménagèrent pour une case, un peu plus loin, à Fleurimont. Rahim mourut à 52 ans. Aja en avait 17. Il laissa derrière lui une famille pauvre et une étonnante case entièrement carrelée. Une curiosité locale. Sa mère y vit encore. Aja y passe moins d'une fois par mois. Ce soir, sa mère n'a rien dû rater du journal télévisé, fière que la gendarmerie de sa fille soit en première ligne, et étonnée sans doute par cette trouble coïncidence. L'hôtel Alamanda comme décor d'une scène de crime. Aja marche sur le parking. Dans quelques heures, comme chaque matin, le plus beau marché de l'île va s'y installer. Il subsiste dans l'air, ou dans son imagination, une odeur d'épices, de cardamome, de noix de muscade, de curcuma. Le téléphone sonne au moment où elle entre dans sa voiture. Morez. Du nouveau.
Aja ?
Ouais, Morez.
On a du neuf.
Putain, vous avez coincé Bélion ?
Non, t'emballe pas. Mais on a des infos sur son passé. Figure-toi que Bélion a un autre cadavre sur la conscience. Et nom de Dieu, question poids sur la cervelle, je crois qu'on ne peut pas imaginer plus lourd.
Christos, sous les draps, va et vient en souplesse. Le corps d'Imelda est chaud. Les plis de sa peau sont comme un matelas de plumes, de feuilles, de crème. Il nage dans une mer épaisse, agitée de vagues qui débordent et se répandent sur les draps. Il baigne dans un océan de liquide amniotique. En elle, il redevient à la fois amant et fœtus. Il pourrait rester ainsi des heures, en érection, la pénétrant au rythme d'une berceuse. Le paradis originel.
« Je peux mettre la télé ?»
Christos n'a pas le temps de répondre. Imelda, sans bouger son corps bloqué sous le torse du gendarme, allonge le bras et saisit la télécommande.
« Ça te concerne un peu aussi, »
souffle la Caffrine.
« Sur toutes les chaînes de l'île, ce soir, la brigade de Saint-Gilles remplace les experts Miami. »
« Décidément. Tu te rends compte ? Tu baises avec Horatio Kane ?» Elle monte le son.
« Tu devrais pas y être. »
« Non. On se relaye, tu vois. J'y retourne demain matin, tôt, en forme. » Aja exige que ses hommes se reposent. Horatio Kane s'offre un long et puissant coup de rein.
T'as super l'air de te reposer.
Christos prend appui sur ses deux coudes et continue de se glisser avec douceur dans le corps voluptueux. La télévision est une concurrente déloyale, mais il n'abdique pas.
Y a une gamine en danger, Christos.
Ouais, et aussi des vendeurs de drogue, des pédophiles, des gosses qui crèvent de faim dans les hauts, des esclavagistes. Et s'il me reste un peu de temps, des motards ivres et des macros qui font la sortie des lycées. Ça ne s'arrête jamais. Comment je fais pour dormir, hein ? Imelda gémit un peu. Sa main lâche la télécommande, ses yeux se perdent au plafond. Christos accélère la cadence. Le sous-lieutenant connaît chaque râle de sa partenaire. Encore quelques secondes avant l'explosion. Il adore quand le corps d'Imelda entre en éruption.
« Il est dangereux !»
souffle Imelda entre deux soupirs.
« Dangereux pour sa petite fille. Il a déjà tué un autre gosse. Il y a... »
La tête de Christos surgit soudainement de sous les draps. « Quoi ? Quel autre gosse ?» Imelda inspire profondément, la pression redescend.
« Le gosse de Boucancano, il y a un paquet d'années. Tu te souviens pas ?»«
Non, Christos ne se souvient pas. Il n'y a que les Réunionnais pour archiver dans un coin de leur cerveau des faits divers qui remplissent les journaux et qui s'accumulent en pile semaine après semaine. Vas-y, précise, ma belle. »
« Je te raconte, de mémoire. C'était il y a au moins 8 ans, un soir, je crois. Le père surveillait son gamin sur la plage de Boucancano. Du moins, était censé le surveiller. On a retrouvé le gosse de 6 ans le lendemain matin, noyé dans l'océan. On n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé, en fait. »
Christos sent son érection fondre comme bâton d'Esquimau oublié sur une terrasse au soleil. « Nom de Dieu ! T'es sûr que ce père, c'était Martial Bellion ?»«
Certaine. Même nom, même tête. »
Le flic grimace comme s'il n'y croyait pas. Imelda enchaîne.
« Personne dans la police n'a fait le rapprochement ?»«
Ben, on prenait Bellion pour un touriste. » L'excuse semble presque irréelle. Il se taise un moment, laissant les cris d'une page de publicité à la télévision meubler le silence dans la case. La main de Christos emprisonne un sein noir, ses lèvres agacent un mamelon rose. Imelda proteste mollement.
« Bordel, Christos, t'appelles pas tes collègues ?»
Christos sent le sang affluer à nouveau dans sa verge. Cette femme est une sorcière, rien que le toucher de sa peau provoque chez lui une rigidité de jeune homme. Elle doit dissimuler des coques noires égorgées sous le lit, faire fondre des bougies dans des noix de coco éventrées, brûler des cubes de camphre avant qu'il arrive, toute la gamme des sorcelleries blanches, malbares et comoriennes. « Demain à la première heure, promis !» Il se coule en elle.
« T'es fou. T'es la honte de la police de Lille. »
« Au contraire, j'ai des principes. Pause syndicale. Ça change quoi ? Balancer cette histoire cette nuit ou demain matin, hein ? Ce type cavale dans la nature. » Il pose sa tête contre la confortable épaule, comme un enfant qui câline, pendant que son bassin rampe et que son sexe s'aventure dans le labyrinthe des secrets du corps d'Imelda. Grotte humide et sauvage où nulles oreilles ne s'est jamais enfoncée.
Imelda caresse les cheveux de Christos. Il s'est endormi juste après avoir joui, comme à chaque fois. Elle continue de masser son crâne du bout des doigts et de sa main gauche attrape un livre sur sa table de nuit. Johnny et Sal, Némésis, Agatha Christie. Elle tourne les pages sans vraiment se concentrer. Elle repense à cette affaire. Ce qu'ils en disent à la télé, ce que Christos lui a raconté, la disparition de cette femme, la mort de Rodin, la fuite de ce type, le témoignage des employés de l'hôtel, tout converge. Les pages usées du livre peinent à se décoller. Quelque chose ne colle pas dans ces témoignages. Déjà à l'époque de la noyade du gamin dans l'océan, certains détails l'avaient chiffonné. Il faudrait qu'elle essaie de se souvenir, de retrouver les journaux de l'époque peut-être. La vieille Marie-Colette, rue Jean 23, conserve tous les quotidiens de La Réunion depuis plus de 30 ans. Comment s'appelait-il déjà ce gosse noyé ? Elle tourne les pages de Némésis. C'est un livre que Nazir lui a trouvé sur une foire à tout, à Saint-Joseph. Christos aime l'appeler sa Miss Catherine Marple. Il ne croit pas si bien dire. Elle dévore plus de 100 romans par an. Tout le quartier lui en apporte. Des vieux livres auxquels il manque le dernier chapitre une fois sur deux. Cette affaire lui rappelle un roman qu'elle a lu il y a une dizaine d'années. K.U. Luibé. La même histoire que celle de Bellion, même si elle se déroulait à Hawaï. Tous les faits semblaient accuser ce type. Sauf qu'il existait un autre personnage. un témoin qui n'arrivait que bien plus tard dans l'histoire et qui modifiait tout l'engrenage. Comme toujours, malgré les efforts de l'auteur pour la rouler dans la farine, Imelda avait deviné l'astuce bien avant la fin. Christos ronfle comme un chaton. Imelda doit faire fonctionner son cerveau. Commencer par le plus simple d'abord, puiser dans sa mémoire d'éléphant. Comment il s'appelait ce gosse de 6 ans ?